France Culture.
Sur le site de l'Assemblée nationale a suscité un engouement inédit, ouvrant donc la possibilité d'un débat dans l'hémicycle, même si la loi Duplomb ne sera pas pour autant rediscutée, nous le verrons. Au lendemain d'une nuit de heurts entre jeunes et policiers à Limoges, des forces de l'ordre supplémentaires sont déployées. Mais le maire de la ville alerte sur le manque de politique de prévention. Un projet d'internat catholique hors contrat reçoit le feu vert des autorités et ouvrira la rentrée prochaine en Sologne, malgré les craintes et les critiques face à l'ambition éducative de l'établissement parrainé par le milliardaire conservateur Pierre-Édouard Stérin. Enfin, nous reviendrons sur la disparition d'une diva. La cantatrice Béatrice Uriah-Monzón est décédée aujourd'hui à l'âge de 61 ans. Lancée il y a 9 jours sur la plateforme de l'Assemblée nationale, la pétition réclamant l'abrogation de la loi Duplomb vient de passer le cap des 500 000 signatures du jamais vu. Reste à savoir si ces signatures seront issues d'au moins 30 départements. Autre condition pour qu'un débat soit organisé à l'Assemblée nationale. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir Julie Paco.
Alors même si ces conditions sont remplies, cela ne veut pas dire pour autant qu'un débat aura lieu.
Non, il n'y a rien d'obligatoire, rien d'automatique. La pétition demande l'abrogation du texte. Il ne sera pas abrogé. En revanche, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale va se réunir à l'automne pour déterminer s'il y a lieu d'organiser un débat qui se tiendrait en séance au Palais Bourbon avec tous les députés. À vrai dire, nous sommes dans un cas de figure unique puisqu'aucune pétition déposée à l'Assemblée n'a jamais recueilli 500 000 signatures. Et s'il n'y a pas d'obligation d'ordre constitutionnel, elle serait plutôt d'ordre politique. Rappelez-vous le débat escamoté à l'Assemblée nationale par les députés du socle commun qui ont voté une motion de rejet préalable à la fin du mois de mai, un vote qui entraînait le rejet du texte sans être débattu et qui permettait d'envoyer directement la proposition de loi en commission mixte paritaire. Un gain de temps pour ses promoteurs, mais un dévoiement des pratiques démocratiques. La question du débat en séance revient par la porte de la pétition. Les députés peuvent-ils y échapper? D'autant que finalement, l'enjeu ne sera pas l'abrogation du texte, mais plutôt son bien fondé. De tout cela, il sera question à la rentrée. Mais d'ores et déjà, l'énorme succès de cette pétition a donné un coup de fouet aux opposants à la loi Duplomb qui veulent faire pression. Ainsi, par exemple, Delphine Bateau, ce soir, qui demande à Emmanuel Macron de ne pas promulguer la loi. Cette pétition peut être d'autant plus une arme politique que le compteur continue de tourner. À l'heure où nous parlons, cette pétition est signée par près de 550 000 personnes. C'est dire si tout cela va très vite.
Nicolas Ballu, merci pour ces explications. Une centaine d'individus cagoulés et armés attaquant des véhicules en circulation. La scène s'est passée la nuit dernière à Limoges. Les forces de l'ordre sont intervenues et des affrontements ont eu lieu durant plusieurs heures. 10 policiers touchés par des tirs de mortier ont été légèrement blessés. La compagnie CRS 8, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines et les émeutes, va être déployée la nuit prochaine à la demande du maire de Limoges, Émile Roger Lomberti.
Ça me paraissait indispensable parce que nous sommes face à quelque chose de très structuré qui rappelle épouvantablement la guérilla urbaine et que nous ne pouvons pas laisser la République se déliter sous le fait de bandes organisées et poussées vraisemblablement par des organisations extérieures. Et le cocktail est détonnant et épouvantable sur un quartier extrêmement jeune, un des plus jeunes de France, extrêmement pauvre, un des plus pauvres de France. Ça fait 2 ans que j'essaie de faire de la prévention, où j'ai mobilisé toutes les forces, police, justice, le département, etc. Personne ne veut jouer le jeu. On a enlevé les éducateurs qui intervenaient pour le département des quartiers, on a enlevé les travailleurs sociaux des quartiers, il y en a des familles pauvres, tout le monde le sait, mais personne n'intervient pour pouvoir faire de la prévention. Alors effectivement, il faut une présence de répression, dissuasion, et il faudrait remettre en place de la prévention.
Le maire de Limoges, Émile Roger Lomberti, au micro de France Info. Un nouvel établissement scolaire ouvrira ses portes à la rentrée prochaine au milieu de la Sologne, dans le Loir-et-Cher. Baptisé Académie Saint-Louis, cet internat catholique non mixte accueillera une centaine d'élèves de la 6e à la terminale et délivrera une formation humaine et spirituelle intégrale, corps, esprit et âme, d'après sa brochure. Derrière ce projet, le milliardaire conservateur Pierre-Édouard Stérin qui ambitionne d'en ouvrir d'autres partout en France. Et cette première Académie Saint-Louis, donc établissement privé hors contrat, vient de recevoir le feu vert des autorités, dont celui du rectorat. Et ce, malgré l'opposition de centaines de représentants du monde éducatif et de figures de la gauche qui y voient un projet politique, Agathe Mahué.
L'internat réservé aux garçons accueillera près de 100 élèves de la 6e à la 3e dès septembre. Ce qui satisfait le député RN du Loir-et-Cher, Roger Chudeau qui balaie tout lien avec l'idéologie ultra-conservatrice de Pierre-Édouard Stérin.
Me semble-t-il, c'est pas un projet politique, c'est un projet éducatif. Le vrai problème de fond, c'est dans quel état est notre système éducatif et comment est-ce qu'on peut organiser au mieux la liberté d'enseignement pour que chaque famille puisse trouver pour ses enfants la meilleure éducation possible. Si les parents d'élèves veulent inscrire leur enfant, leur garçon, dans un internat de garçons, eh bien, ils sont libres de le faire.
Mais l'incompréhension et l'inquiétude persistent parmi les 160 personnalités qui ont signé la semaine dernière une lettre pour s'opposer au projet, dont la représentante du premier syndicat SNES-FSU, Sophie Vénétité.
Là, on a vraiment les plus grandes craintes sur ce qui sera enseigné aux élèves en matière d'égalité filles-garçons, de rôle des hommes et des femmes dans la société, et la façon dont ils envisagent l'enseignement de l'histoire, qui est vu uniquement sous un angle du roman national, qui vise à exalter certaines périodes de l'histoire de France et à passer sous silence des périodes plus sombres. Donc, le projet politique de Pierre-Édouard Stérin n'est pas anodin, il est même dangereux pour l'école.
Le rectorat lui tente de rassurer en évoquant des contrôles menés au sein de l'établissement dès cet automne.
Toute autre ambiance à la Fondation Culture et Diversité qui accompagne des lycéens et étudiants boursiers pour les aider à intégrer de grandes écoles dans le domaine culturel. Et bien chaque année, elle organise des ateliers dans divers établissements comme l'INA, l'école du Louvre, les écoles d'art appliqué ou encore à la FEMIS, l'école du cinéma dans laquelle 15 jeunes suivent durant 3 semaines cet été une formation intensive pour préparer le concours d'entrée que certains vont donc passer pour la première fois. Seule une quarantaine d'étudiants sont sélectionnés chaque année dans cette école. Reportage de Fiona Mogadam.
Rencontre avec des professionnels du cinéma, atelier d'écriture, casting.
Est-ce que cette paire-là, c'est pas celle qui a le mieux fonctionné?
Non,
je ne trouve pas.
Mais aussi préparation d'un film, tournage, montage, jusqu'à sa diffusion, le programme est dense en 3 semaines. La scénariste et réalisatrice Leïla Bouzid supervise les ateliers égalité des chances cette année à la FEMIS.
C'est la connaissance plus approfondie de en quoi consistent les métiers. Souvent, quand on veut faire du cinéma, qu'on a 20 ans, on n'a pas vraiment conscience de toute la complexité de ce que sont les métiers du cinéma, en quoi on peut s'investir artistiquement dans la fabrication d'un film en étant script, chef d'écho, ingénieur du son.
C'est exactement l'expérience que vit Antoine Brigeat, 20 ans.
J'avais tenté le concours la première fois en réalisation.
Car à la FEMIS, il faut choisir son cursus avant de passer les concours.
Mais c'est vrai que peut-être être chef opérateur, c'est l'une des meilleures voies pour moi, qui à la fois adore tout ce qui est très technique, mathématique, et en même temps qui a cette affinité pour le côté artistique, poétique. C'est deux pistes qui m'animent beaucoup tous les jours.
Et là, du coup, l'héros se lève et il commence à tirer à...
Ikram Mansouri, 25 ans, a aussi tenté le concours en réalisation, mais elle pourrait finalement s'orienter vers le montage. Actuellement, elle est étudiante aux Beaux-Arts de Marseille. Ses ateliers lui ouvrent les portes d'un milieu qu'elle estime peu accessible.
C'est pas du tout un univers dont je suis vraiment proche. Ma famille ne s'est jamais intéressée à ça. Ils connaissent pas les Beaux-Arts, ils connaissent pas la FEMIS. C'est vraiment via les écoles, via les profs qui m'ont inculqué cet amour du cinéma. Je trouve ça vachement mystérieux, on n'a pas trop accès à tout ça, c'est ça qui me donne envie.
Depuis le lancement du programme, 247 élèves ont participé à ces ateliers à la FEMIS. Le taux de réussite au concours est nettement supérieur après. Éléonore de la Charrière, la présidente de la Fondation Culture et Diversité.
Nous avons 20% de réussite depuis 19 ans que le programme Égalité des Chances à la FEMIS existe, contre 3,6% en moyenne nationale. On a les meilleures écoles publiques artistiques, qui sont des écoles gratuites. Mais c'est difficile de se projeter, de se dire que c'est pour soi, de comprendre comment se passent les concours. On avait vraiment la conviction que ces jeunes issus des milieux modestes ont besoin d'un peu d'accompagnement et de confiance en eux pour réussir ces concours. Mais avant tout, que notre société a besoin de cette diversité culturelle dans la création.
Mais pour rejoindre ce programme aussi, la sélection est rude. Seuls 15 à 20% des candidats et candidates sont choisis pour participer à ces ateliers.
18h08 sur France Culture et le Quai d'Orsay confirme la libération de Lucas Hunter, un franco-américain détenu au Venezuela depuis le mois de janvier dernier. Cet homme de 37 ans a été relâché dans le cadre d'un rare échange de prisonniers entre Caracas et Washington, une dizaine d'Américains contre près de 250 Vénézuéliens enfermés au Salvador. Et cette affaire, Loïc Loury, est directement liée à la politique migratoire de Donald Trump.
En mars dernier, quelques semaines après son arrivée au pouvoir, Donald Trump avait fait expulser plus de 250 Vénézuéliens. Accusés sans preuve d'appartenir au gang Tren de Aragua, ils étaient depuis enfermés dans une méga prison du Salvador. Le président américain faisant de cette affaire la vitrine de sa politique anti-migrant. Hier, ce sont donc ces mêmes détenus qui ont retrouvé leur liberté contre celle notamment de 10 Américains enfermés au Venezuela. L'an dernier, en effet, Caracas avait commencé à emprisonner des ressortissants étrangers, en particulier américains, souvent accusés de complot afin de les utiliser, selon les experts, comme monnaie d'échange. Nicolas Maduro a-t-il actionné ce levier pour faire libérer ses propres détenus au Salvador, ou Donald Trump les avait-il fait enfermer pour que Caracas relâche ses 10 Américains? L'un des deux a vraisemblablement été pris à son propre jeu.
Loïc Loury, correspondant de France Culture à New York. Les combats meurtriers entre communautés se poursuivent en Syrie. Malgré l'annonce d'un cessez-le-feu immédiat ce matin par le président syrien Ahmad al-Shara, des tribus et bédouins sunnites affrontent toujours des combattants druzes dans la région de Soueida, au sud du pays. Cet accord de cessez-le-feu a été conclu hier sous l'égide des États-Unis entre la Syrie et Israël, qui affirme vouloir défendre les druzes dans la région. Israël s'était opposé plus tôt cette semaine à la présence des forces de sécurité syriennes dans cette province proche de sa frontière nord. Des forces de sécurité qui vont donc être redéployés dans la région. Ces affrontements intercommunautaires ont fait plus de 900 morts en moins d'une semaine. Capturer les émanations de CO2 afin de limiter les gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique. En Suède, la compagnie d'énergie suédoise Stockholm Energy vient d'investir 13 milliards de couronnes, soit plus d'un milliard d'euros, pour construire l'un des plus grands sites au monde de captage de CO2. Cette technologie coûteuse permettrait de générer des émissions dites négatives. Mais Otilia Ferret, certaines associations de défense de l'environnement, y voient là une fausse solution.
En termes simples, l'idée est de capturer le CO2 qui s'échappe lors de la combustion de biomasse. Le gaz sera ensuite transporté par bateau au large de la Norvège pour être enterré dans la roche sous-marine. Pour Anders Egelrød, le directeur général de Stockholm Exergi, ce procédé est nécessaire si la Suède veut atteindre son objectif de neutralité carbone en 2045.
Nous allons capturer 800 000 tonnes, soit la même quantité que celle émise par l'ensemble du trafic automobile de Stockholm pendant une année entière. Le captage n'est pas une alternative, c'est une nécessité. On vend des crédits carbone à des acteurs privés comme Microsoft, qui a signé avec nous l'un des plus grands accords de suppression de carbone jamais réalisé au monde pour compenser leurs émissions.
Mais la grande partie du financement vient d'aides et de prêts publics provenant d'un fonds de l'Union européenne et de l'État suédois. Pour Rolf Lindahl, porte-parole de Greenpeace Suède, cet argent pourrait être mieux dépensé.
Cette technique de captage, on voit ça comme une fausse technique et une distraction au réel changement que nous devons faire, à savoir entreprendre une révolution énergétique en nous débarrassant des énergies fossiles polluantes et en réduisant drastiquement nos émissions ici et maintenant.
Mais le projet de captage de dioxyde de carbone est déjà lancé et devrait être opérationnel en 2028.
Figure incontournable de la scène lyrique française, la cantatrice franco-espagnole Beatriz Uriamonson est décédée aujourd'hui à l'âge de 61 ans des suites d'une longue maladie. Connue notamment pour avoir incarné Carmen et longtemps cantonnée à une tessiture de mezzo-soprano, elle revenait sur cette étiquette et sur le travail de sa voix au micro de France Musique en 2021.
En fait, moi pendant longtemps, on m'a qualifiée... C'est-à-dire que j'ai eu cette étiquette, beaucoup de Carmen, que j'ai chanté plus de 400 fois. Donc ça m'a un peu collé à la peau et c'est vraiment la typologie d'un mezzo, on va dire, même s'il a écrit soprano et que des fois, des mezzos peut-être un peu plus légers que moi peuvent le faire. C'est un peu entre les deux, ce rôle de Carmen. Mais bon, on m'a mis cette étiquette. Pourtant, déjà assez jeune, ayant des facilités dans l'aigu, je m'étais posé la question de savoir si je commencerais pas à travailler les sopranos. Je trouvais que je perdais ma couleur de voix, donc ce qui fait la spécificité du mezzo-soprano, une couleur plutôt ronde, une couleur peut-être un peu sombre et un peu charnue en ce qui me concerne. Et donc j'avais l'impression de perdre toutes ces qualités à une époque, donc je suis restée dans ce répertoire de mezzo-soprano. Et finalement, je crois que des années après... En travaillant énormément, j'ai réussi à garder ces qualités tout en montant dans l'aigu. Et c'est pour ça que j'ai dit soprano dramatique. C'est un peu un mélange du mezzo et du soprano, le soprano dramatique.
extrait donc de Norma, opéra de Bellini, interprété par Béatrice Oyamonson, qui s'est donc éteinte aujourd'hui à l'âge de 61 ans. La météo, avec 7 départements placés en vigilance orange pour orages de l'Ain à la Loire jusqu'à au moins 22 heures. Des orages attendus demain sur le nord-est avec une nouvelle vigilance orange à partir de 13 heures qui concernera la Côte d'Or, la Haute-Marne et toute la Lorraine. Au réveil, eh bien, les nuages domineront sur l'ensemble du pays. Les averses seront fréquentes de la Normandie au Hauts-de-France. Les températures seront comprises entre 14 et 19 degrés en moyenne et jusqu'à 20 à 23 degrés sur le littoral méditerranéen. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto, Alexandre Dang à la technique.